Je suis au Festival du film historique de Pessac avec François Aimé. Bonjour François Aimé.
Bonjour.
Alors c'est la course, je vous attrape en quelques séances. Là on vient d'assister à une séance en avant-première de Gurs, un silence insoutenable, où on a vu que le parterre, il y avait des gens qui avaient connu cette époque en tant qu'enfants. C'était assez émotionnel, assez fort dans les réactions, les commentaires. Est-ce que vous assistez souvent à ce genre de réaction selon ce que vous proposez comme programmation ?
Ça arrive pas trop souvent, ça arrive sur les sujets sensibles, effectivement, où il y a des liens personnels, des liens familiaux souvent. Par exemple, les sujets qui ont pu être sensibles, c'est le communisme, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine aussi. Et là, ça touche à l'immigration, à la fin de la guerre civile espagnole, la retirada. Et donc, à Bordeaux, on n'est pas très loin de la frontière. Et donc, il y a beaucoup de familles originaires d'Espagne pour qui c'est un sujet très sensible.
Qui, comme le dit très bien le documentaire, justement, de Nicolas, Laura et Vidal, c'est que les Espagnols arrivaient, ils avaient connu les exactions, justement, du franquisme, du début du franquisme. Ils arrivaient en France, ils espéraient trouver une terre d'accueil, la terre des droits de l'homme.
Oui, tout à fait. On est en 39, c'est la fin de la guerre civile. Et il y a une énorme déception. Ils sont reçus avec méfiance, en fait. Ils sont perçus comme étant des rouges, des communistes qui pourraient être violents. Mais quand même, pour nous resituer dans cette période, ils sont 500 000. C'est-à-dire que c'est un afflux important. Alors quand on voit aujourd'hui les réactions hostiles, disons le mot, vis-à-vis des réfugiés qui pourraient venir de Syrie ou d'autres pays, on peut imaginer... Ce qui a pu être ressenti en 39. Je dis pas ça pour excuser du tout la réception des Français, mais voilà, il y avait un contexte qui était politiquement tendu et du racisme, tout simplement, une méconnaissance des conditions dans lesquelles les républicains avaient pu être expulsés, en fait, obligés de partir d'Espagne.
Et à la différence d'aujourd'hui, on est informé parce qu'il y a tellement de médias, il y a Internet, il y a la télévision, il y a la radio, il y a beaucoup de choses qui nous informent quasiment en direct. À l'époque, les gens assistaient au flux, à la masse de gens qui arrivaient, mais qui n'étaient pas forcément informés en amont.
Oui, alors il y a effectivement une différence d'information. À l'époque, il y a quand même la radio, il y a quand même la presse, il y a du fantasme autour de tout ça. Aujourd'hui, on a plus d'informations, mais enfin, il y a aussi des rumeurs sur Internet, des fake news. Donc il faut relativiser la différence. L'information va plus vite, vous avez raison. Mais il faut la vérifier, et elle ne l'est pas toujours.
Alors, cette édition du Festival du film historique de Pessac se déroule du 20, premier jour aujourd'hui, du 20 au 27 novembre. So British, c'est l'intitulé de cette édition, qui est consacrée à l'Angleterre, la relation de la France et l'Angleterre. L'Angleterre de manière exhaustive, parce qu'on parle de Marie Stuart jusqu'à même Brexit. Comment vous est venu le choix de cette thématique ?
Alors, en fait, c'est une thématique à laquelle on pensait depuis longtemps. Puisque d'abord la Grande-Bretagne a été la première puissance mondiale, elle a une histoire extraordinaire, très longue, elle a aussi un cinéma très riche, très, très diversifié, avec des grands cinéastes comme Ken Loach, comme David Lean, comme Stephen Frears, comme Alfred Hitchcock, enfin voilà. Donc il y a vraiment un potentiel énorme, et puis il y a l'actualité du Brexit qui est une belle opportunité à nous obliger à mieux comprendre, à mieux regarder nos voisins. Les Anglais restent nos voisins, nos amis, et qui ont été nos ennemis, et qui s'éloignent de nous d'une certaine manière, alors d'une manière politique, d'une manière financière, d'une manière économique. Mais il y a des liens culturels qui existent, des liens historiques, et c'est bien de se pencher sur ces liens-là.
Justement, d'autant plus que maintenant le Brexit est actualisé, de montrer qu'il y a quand même toujours eu des inter-échanges, des actions entre la France et l'Angleterre.
Oui, et puis montrer que l'échange, la solidarité, elle n'est pas stable. Voilà, elle est irrégulière. À certaines périodes, elle est renforcée. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, heureusement que les Anglais étaient là. Et puis il y a d'autres périodes où, au contraire, on sent qu'il y a une défiance réciproque, et qu'on a un mal de chien, en quelque sorte, à dépasser cette défiance. On disait dans un article ce matin dans le journal Sud-Ouest qu'à l'intérieur des familles anglaises, le Brexit avait divisé les familles. C'est-à-dire que les gens ne se parlaient plus, comme en Catalogne. Tout ça, c'est pas anodin, c'est pas juste comme ça une question dont on débat de manière superficielle. Ça, en fait, ça touche à des choses très profondes et à la relation avec l'autre. L'autre qu'on fantasme ou l'autre au contraire qu'on a envie de, avec lequel on a envie de développer des échanges. Et d'après ce que j'ai pu lire, ce qui revient quand même beaucoup dans la presse, c'est qu'il y a un vrai écart entre les générations aussi. C'est-à-dire que les jeunes étaient contre le Brexit et c'est les personnes plus âgées qui étaient plutôt pour le Brexit. Et c'est inquiétant parce que justement, il y a. Je crains que le risque, c'est que la jeunesse britannique, du coup, par rapport à la jeunesse allemande, italienne, espagnole, française, soit moins reliée, en quelque sorte, aux autres pays.
Et je rebondis sur ce que vous dites, François-Aimé, il y a aussi des écarts à travers les milieux sociaux, selon le milieu auquel on appartient.
Oui, bien sûr, tout à fait. C'est comme en France sur certains sujets, sur l'immigration, etc. Les grandes villes ont plutôt voté contre le Brexit et les villes moyennes désindustrialisées
les campagnes
pour. Et après on en parlera pendant le festival, il y aura des conséquences sur l'unité du Royaume-Uni, c'est-à-dire que les Écossais, le Pays de Galles, l'Irlande se disent nous on aimait bien avoir des liens avec les Européens, enfin, voilà, il peut y avoir finalement, comme il vient d'y avoir en Espagne, des risques de fissuration. Peut craindre que ça soit le cas au Royaume-Uni.
Et ça peut entraîner d'autres pays, on pense à la Belgique, bien évidemment.
Oui, après, on ne sait pas où ça, où ça... Vous avez raison, ça va s'arrêter. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'information. On a quand même eu ces derniers temps que sur le compte, il y a des comptes Facebook qui étaient pro-Brexit, alimentés par la Russie. Enfin, on voit que les choses ne sont pas simples, en fait. Il y a aussi des volontés étrangères de semer la discorde au sein de l'Europe.
Il y a toujours de la manipulation, elle semble plus facile maintenant avec les réseaux sociaux.
Alors, là, c'est une question pas si facile que ça, parce que la manipulation, elle a toujours existé. Il y a une période en France où il y avait l'ORTF, où l'information était contrôlée sous De Gaulle, le journal télévisé était validé avant. Donc, et certains sujets n'étaient volontairement pas traités. Ça n'empêchait pas d'avoir une presse qui était plus ou moins libre à côté. Donc, est-ce que c'est plus ou moins qu'avant? En tout cas, ça existe toujours. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a... Et Internet donne la possibilité de diffuser des fausses informations à une grande échelle, de manière très rapide. Donc, l'effet peut-être démultiplié. C'est ça qui a changé, je pense. C'est-à-dire que ça peut aller très vite, en fait. Voilà. Une fausse information peut rapidement être diffusée, être crue, et quelque part, même si après il y a un démenti, une partie du mal est faite. Voilà. Ça, c'est le danger aujourd'hui de certains supports. Dans l'autre sens, ça peut être un levier pour certaines causes. Il y a aussi des points très positifs, bien sûr.
Alors François-Aimé, 110 films pour cette édition,
oui.
Des débats, c'est ça un peu la marque,
oui,
de fabrique du,
oui,
festival, avec des thématiques très intéressantes et très diversifiées, très bigarrées. Ça peut aller de City, The Place to Be, ou alors le Brexit, justement. Ces thématiques, vous les avez élaborées en fonction des historiens qui vont venir, des intervenants?
Si vous voulez, alors sur les débats, il y a une quarantaine de débats. Ils ont été préparés avec la revue d'histoire, avec les universités, avec Le Monde, avec le journal Sud-Ouest, avec France Culture. Voilà, on a beaucoup de partenaires. Et l'idée, c'est d'avoir un panorama un peu, pas forcément exhaustif, bien sûr, parce que c'est pas possible, mais assez complet des différents aspects de l'histoire, mais aussi de la culture britannique, avec... une large majorité de sujets historiques, mais aussi des sujets plus contemporains. Ça fait partie du festival, de la démarche du festival, d'avoir le va-et-vient entre le passé et le présent. Donc, comme vous l'avez dit, il y a un débat sur la City, il y a un débat sur les migrants, il y a un débat sur le Brexit. Donc ça, c'est
sur la culture ouvrière.
Sur la culture ouvrière, c'est la partie plus contemporaine. Et puis, il y a des portraits comme ceux de Marie Stuart, de Churchill, bien sûr. Il y a un débat sur l'Irlande, le conflit entre l'Angleterre et l'Irlande qui a duré des siècles. il y a deux rencontres à la fois sur le système monarchique et sur la démocratie britannique. Donc voilà, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Il y a aussi des rencontres littéraires sur Shakespeare, sur Virginia Woolf, sur George Orwell, Les Sœurs Brontë. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis, il y a 70 films avec des genres très différents, des films d'époque, des films politiques, de Ken Loach, de Stephen Frears, des films d'espionnage, James Bond, des films d'aventure, des films de guerre. Voilà, donc j'ai envie de dire qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Et ce qui est important à rajouter, c'est qu'à côté de tout ce programme qui décline la Grande-Bretagne, nous avons une trentaine d'avant-premières qui, elles, sont des films d'histoire, certes, mais pas dédiés à la Grande-Bretagne.
On pense Gardienne de Beauvoir, Les Gardiennes de Beauvoir,
oui, tout à fait.
On ou a... Los Perros, Mariana.
Voilà, exactement. Il y a une dizaine d'avant-premières cinéma, des films de fiction. Donc ce soir, ça sera La mort de Staline, qui est un film anglais, mais dont le sujet est un épisode très important, charnière de l'histoire de l'Union soviétique, c'est la mort de Staline et la lutte pour le pouvoir qui s'en est suivie. Donc Les Gardiennes, en présence de la productrice Sylvie Piala et de l'actrice principale
Iris
Bry. Donc c'est un film adapté de Ernest Perrochon qui décrit le quotidien des femmes pendant la guerre, des femmes qui sont restées à la ferme.
Et l'importance économique de ces femmes.
Exactement, leur rôle social, leur difficulté d'adaptation à cette situation difficile. Mariana, donc ça c'est l'après-Pinochet sur les fractures, les blessures qui demeurent au sein de la société chilienne après la chute de Pinochet. Alors il y a La promesse de l'aube qui sera le film de clôture, qui est l'adaptation du roman de Romain Gary avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Niney dans le rôle titre. Nous présenterons aussi L'échange des princesses, qui est le nouveau film de Marc Dugain, qui sera présent pendant le festival. La douleur d'Emmanuel Finkiel, qui est une adaptation de Marguerite Duras, la roman autobiographique sur Marguerite Duras. Voilà, donc il y a vraiment l'embarras du choix pendant une semaine.
Un éventail de possibilités. J'ai été prise par la cohue des lycéens là, quand je suis rentrée dans le cinéma Jean Eustache tout à l'heure. C'est important aussi pour vous de transmettre aux jeunes générations.
Oui, alors il y a un festival dans le festival, si vous voulez, qui est toute la partie scolaire. Il y a 26 films qui sont proposés aux lycéens, pour lesquels il y a eu un travail sur des dossiers pédagogiques, un travail d'accompagnement. Et il y a effectivement alors, les lycéens, mais aussi les collégiens, les élèves du primaire. Ils sont très nombreux. Et les échos qu'on a, puisqu'il y a des séances décentralisées depuis 15 jours, c'est vraiment des échos très positifs. Hein. Pas toujours facile de choisir des films qui sont adaptés, qui sont susceptibles d'intéresser les élèves. Et dans les faits, franchement, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien.
Oui, j'ai vu qu'entre autres, il y avait Bloody Sunday, les suffragettes. Enfin, des thématiques qui sont aussi utiles pour leur cursus au lycée ou au collège.
Oui, et puis on a veillé à prendre des films qui sont très bien écrits. Hein, si vous parlez des suffragettes et Bloody Sunday, c'est des films au scénario et au cordeau. Bloody Sunday, c'est un vrai suspense. C'est un suspense sur un fait historique. Mais qui recrée une ambiance, une tension, je crois qui prend les élèves vraiment à bras le corps. Et puis les suffragettes, voilà, c'est un sujet, je pense, qui les interpelle sur le droit de vote des femmes, comment ce droit de vote a été conquis, et qui montre que l'Angleterre était très en avance sur la plupart des pays du monde. C'est un des tout premiers pays qui a donné le droit de vote aux femmes, donc parce que les femmes se sont battues. Donc voilà, c'est deux belles réussites que vous citez. Il y en a d'autres, les films de George Orwell, d'après George Orwell par exemple, sont très appréciés aussi.
Alors François May, vous êtes le fondateur de l'Université populaire pour le cinéma. Comment vous est venu ce projet? Quelle était l'intention de départ? Et parlez-nous aussi de votre passion pour le cinéma.
Alors, l'Université populaire, écoutez, en fait, c'est une idée qu'on avait depuis longtemps. C'est-à-dire que on voyait que la cinéphilie se diminuait de manière régulière, pas de manière forcément nette, mais on sentait qu'il y avait la nécessité de réanimer en quelque sorte l'envie d'apprendre sur le cinéma. Et donc l'idée de faire des conférences sur l'histoire du cinéma, sur les techniques, sur les réalisateurs, sur les genres, sur les acteurs. Et en fait, ça a répondu très vite. de manière massive. Oui, comme s'il y avait eu un vrai manque. Et ça a répondu positivement aussi du côté des intervenants. Voilà. Et donc on l'a décliné après avec des cours d'histoire. Et ça fait 8 ans maintenant que cette université populaire fonctionne. Ça dépasse nos prévisions. Hein. On est à 1500 inscrits sur les deux universités populaires. Donc c'est un vrai succès qui draine des gens de tout le département. Et donc c'est devenu, ça fait partie de l'identité du Jean Eustache. C'est un vrai succès.
Et donc cette passion du 7e art, ça vous est venu jeune enfant déjà ?
Oui, surtout quand j'étais adolescent en fait. Hein. À l'adolescence, j'ai découvert des cinéastes comme Fellini, Jacques Tati, cinéastes allemands aussi comme Werner Herzog, Fassbinder. Et c'est vraiment à l'adolescence que je me suis ouvert au cinéma d'art et d'essai. Avant, je regardais plutôt des films grand public. Et voilà, c'est entre 15 et 25 ans que vraiment ma cinéphilie s'est développée et que j'ai voulu en faire mon métier. Et c'est ce qui s'est passé.
Et justement, là, on est au cœur du... Bon, on se croirait dans les Highlands, au Loch Ness, là, avec la cornemuse, mais on est en fait dans le cinéma Jean Eustache à Pessac. Un cinéma qui est très bien décoré, où il y a des salles avec, bien sûr, des noms élogieux. Laurel et Hardy, Tati, vous venez de le mentionner. Et je pense qu'il est important pour les jeunes générations de voir le cinéma dans ces conditions-là sur grand écran, alors qu'ils sont habitués aux tablettes, aux écrans personnels. Est-ce que pour vous, vous voyez une différence quand ils viennent ici ? Est-ce qu'ils apprécient différemment les films qu'on leur propose ?
Écoutez, j'ai ce sentiment-là. C'est un long travail. Hein. Il faut vraiment...
D'éducation au cinéma.
Oui, c'est un long travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'a priori contre le vieux cinéma. On est dans un univers... Il y a une prime à la nouveauté. Pour ce qui concerne le cinéma, c'est beaucoup moins vrai pour la musique. Vous avez des jeunes qui écoutent les Beatles, les Rolling Stones, Pink Floyd, et ils vont pas vous dire que c'est de la vieille musique. Ils vont vous dire que c'est super, etc. Ou Dire Straits, ou je sais pas. Voilà. Et idem pour la littérature, on va pas forcément dire que, je sais pas moi, que le Maupassant, Victor Hugo, Marcel, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, c'est de la vieille littérature. On dira pas ça. Mais par contre, sur le cinéma, on a tendance à dire, dès qu'un film a plus de 10 ans, que c'est du vieux cinéma. Donc, à nous, les directeurs de salles de cinéma, de festivals, les journalistes aussi, d'expliquer que non, c'est pas des vieux cinémas. C'est du cinéma ancien, peut-être, mais c'est un cinéma qui... dans lequel il y a des films qui ont pris un coup de vieux, ça c'est vrai. Il y a des films qui ont mal vieilli, bien sûr. Mais il y a aussi des films qui ont très bien vieilli. Et au contraire, qui sont toujours d'actualité, qui sont toujours passionnants et qu'il faut voir dans les conditions dans lesquelles ils ont été pensés, donc en salle de cinéma. Quand on montre Orange Mécanique à des jeunes d'aujourd'hui, ils sont impressionnés. Quand on leur montre Full Metal Jacket, ils sont impressionnés. Quand on leur montre, par exemple, on va leur montrer Samedi soir, dimanche matin, le film des années 60, je pense qu'ils le seront aussi, ou les premiers films de Ken Loach, comme Kes, par exemple. C'est un film on montre à des lycéens ou des collégiens et... ou même si on montre un film de Charlie Chaplin, ça marche toujours. Enfin voilà, il y a toujours des grands classiques. C'est ça un classique, c'est un film qui arrive à dépasser le temps qui passe. Voilà. Et c'est vrai pour le cinéma comme c'est vrai pour la musique, la littérature, le théâtre, etc. Donc, mais c'est moins évident. Il faut qu'on accompagne cette démarche-là. L'école est un bon moyen. Les professeurs sont souvent convaincus de cette nécessité. Maintenant, il faut aussi que les élèves, en dehors de l'école, justement, le fassent aussi. Le festival est une opportunité parmi d'autres.
Merci François Aimé. Je vois que l'attaché de presse piaffe d'impatience de vous récupérer. Vous êtes très sollicité. Merci de nous avoir accordé
Merci
du temps.
Beaucoup. Merci, au revoir.
Au revoir.